Eh bien, c'est le retour du quiz biblique. En avant.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc, je suis Charlotte, puisque Olivier ne me présente pas. Et bonjour à tous nos amis auditeurs.
J'avais oublié le prénom.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver, d'avoir travaillé pour vous pendant ces derniers jours. Et je vous invite d'abord à jouer avec moi. C'est un petit quiz très facile. Et puis, surtout, on a le droit de se tromper. Donc, appelez-nous, oui. Jouez avec moi, oui. Que je ne me sente pas trop
non.
toute seule.
Qu'avec Olivier, c'est difficile.
Voilà, mais il n'a pas il n'a pas ni les questions ni les réponses. Donc, voilà, c'est un candidat comme vous.
C'est quel thème, là, ce mois-ci? Où est-ce que va le quiz biblique? Il y avait
alors,
des thèmes.
Aujourd'hui, il y a un petit voyage. Voilà mon thème, si je puis dire. Et je vous invite tous avec moi de partir en destination de Jéricho. Alors, qui vient, qui a l'audace de répondre à mes petites questions bien faciles?
Facile, il faut le préciser, ça peut décourager hein, des personnes de se dire... Ou alors, elles vont montrer à tout le monde à quel point elles ont un degré d'inculture, ce qu'on ne juge pas, hein, on n'est pas inquiet de ça, nous aussi, on découvre, on apprend.
Mais c'est apprendre par le jeu,
par
et
le
puis
jeu,
surtout...
c'est pas des
c'est,
pièges.
Voilà, il n'y a pas de piège.
Il n'y a pas de piège.
Et moi, souvent, je ne connaissais absolument pas aucune des réponses. Enfin, presque.
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 Donc... qu'on peut faire, Charlotte, pour commencer, bien, on va amorcer la pompe, hein, pour parler simplement, puis on va commencer à le quiz biblique, hein, tous les deux, en studio de la garde.
Mais volontiers, volontiers. Alors, la première question, si vous m'écoutez tous et toutes, et Olivier,
oui,
que je challenge,
oui.
Alors, la ville de Jéricho, située à quelques milliers de kilomètres d'ici,
oui.
Moi, elle me fait rêver, je n'y suis jamais allée, j'aimerais bien y aller. J'irai un jour, j'en suis sûre. Eh bien, Jéricho est située dans quelle région géographique? À votre avis, vous qui m'écoutez, est-ce la Galilée, la Judée ou la Samarie? Olivier?
C'est une bonne question.
La Galilée, la Judée ou la Samarie?
Non, parce
du temps de Jésus.
Parce que Jéricho, c'est quand ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, et ils sont arrivés ensuite, ils sont arrivés vers là, vers Jéricho.
Peut-être, peut-être, je ne dévoile pas la suite de mes questions.
Avant la terre promise. Alors là, je dirais, c'est du côté des Philistins, vous avez dit, c'est ça? La Palestine?
Alors, j'ai dit la Galilée.
Oui, non, pas la Galilée.
La Judée?
Non. Avant.
La Galilée. La Samarie.
La Samarie. Non.
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 C'est la Judée.
C'est la Judée, ben voyez.
Mais bon, Jéricho est situé presque à la frontière. Alors, on va dire une demi...
ben voilà.
Une demi bonne réponse.
Demi une bonne réponse, je m'applaudis. Allons-y, d'accord. Donc, c'est en Judée.
Voilà, Jéricho
est en
Judée. Trouve en Judée. Mais que signifie Jéricho? Que veut dire Jéricho? Est-ce... Il y a deux possibilités. Alors évidemment, vous allez me répondre peut-être, Olivier, un petit peu au pifomètre, puisqu'en fait, même moi, je ne connaissais pas la réponse. Donc si ça vous paraît difficile, en fait, je n'attends pas de vous que vous ayez la bonne réponse, mais j'attends de vous que nous discutions
en
et
effet.
Que nous apprenions des tas de choses.
En effet.
Alors Jéricho signifie « ville de la lune » ou des palmiers, ou ville du soleil et des oliviers.
Il n'y a que deux choix.
Il n'y a que deux choix, parce que c'est une mini-question avec des grandes réponses.
Soleil et palmiers, je dirais, parce que ça faisait partie avant d'arriver à la Terre promise.
Alors
quand
Olivier,
même,
ce n'est pas soleil et palmiers, c'est soleil et oliviers. Ou lune et palmiers.
Soleil, oui, un soleil.
Alors, bien non, non, non. Justement, c'est non. Littéralement la ville de la lune
et, ben voilà.
Et des palmiers.
Oui.
Mais je vais quand même expliquer pourquoi.
Mais oui.
Hein? Alors, pour ce qui est de la lune, c'est dérivé de la racine sémitique lune. Et cela indique que la ville fut l'un des premiers centres de culte des divinités lunaires.
Oui.
Alors Jéricho a été mentionné pour la première fois dans le Livre des Nombres et est considéré comme une des plus anciennes villes habiter dans le monde. Alors, ce terme est peut-être un petit peu discuté, mais enfin, voilà, c'est ce que j'ai quand même trouvé. Et les archéologues ont mis au jour des restes de plus de 20 établissements successifs, même bien avant Jésus-Christ. Hein, voilà. Aujourd'hui, la cité a une population d'environ 27 000 habitants. Mmh. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et alors, ça, c'est la Lune. Et la ville des Palmiers, eh bien, Jéricho a été décrite dans la Torah comme la ville des palmiers, d'où d'abondantes sources d'eau tiède et d'eau froide jaillissent et donnent lieu à la culture de citrons, d'oranges, de bananes, de plantes, de melons, de figues et de raisins et de canne à sucre. Voilà pourquoi on appelle la ville de Jéricho la ville des palmiers et la ville de la Lune.
Très bien, je me le tiens pour dit.
Voilà. Ça donne bien envie d'y aller, tous ces fruits.
Oui, oui.
Savez-vous si Jéricho est la ville la plus haute ou la plus basse du monde ?
Certainement pas la plus haute, par déduction.
Donc ?
La plus basse.
Bravo !
Oui, enfin, enfin. Et enfin, et oui. Un appel. Hein. Donc Charlotte, je vous laisse.
Donc la ville, je finis juste ma réponse. Oui. Jéricho est la ville la plus basse du monde avec une altitude proche de moins de 140 en dessous du niveau de la mer, de 140 mètres bien sûr. Il y a quelqu'un pour jouer avec nous ?
En effet, il y a quelqu'un. Eh bien, ce quelqu'un, nous allons le découvrir directement. Ce quelqu'un est à l'antenne. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Vous venez d'appeler en régie, vous êtes maintenant en direct.
Ah d'accord, ben, okay. Oui. Jean-Claude.
C'est Jean-Claude.
Ah bon, ben, bonjour Jean-Claude.
Voilà, qui veut aller voir du côté de Jéricho, qui veut aller voir de
ce alors, est-ce
côté.
Que vous avez entendu le début de l'émission ?
Oui, j'ai entendu. Oui.
Donc, nous partons à Jéricho.
Oui.
Je vous invite au voyage ce soir à travers 35 petites questions qui sont de plus en plus faciles. Et moi, je suis ravie de vous entendre. D'où nous appelez-vous, Jean-Claude ?
De Mantes-la-Jolie, en fait.
Mantes-la-Jolie.
Eh bien.
Eh bien, de Mantes-la-Jolie, vous partez, vous faites quelques milliers de kilomètres et nous atterrissons pour la question suivante. Donc, Olivier,
oui.
Jean-Claude.
Et Jean-Claude.
Alors, qui était le gouverneur de Jéricho au temps de Jésus ?
Ponce Pilate.
Alors, il y a trois réponses. Mmh. Et moi, je vous propose de répondre chacun à votre tour. Donc, d'abord Olivier et ensuite Jean-Claude ou vice-versa. Et on peut d'accord. faire l'un ou l'autre à chaque mmh. réponse. Alors, Ponce Pilate ou alors Hérode le Grand ou alors Hérode Antipas. Et vous avez le droit de vous tromper.
Hérode Antipas, pour moi.
Oui. Et vous, Jean-Claude ?
À l'époque de à
quel temps de Jésus, au temps de Jésus, bien sûr. Qui était le oui, gouverneur de Jéricho au temps de Jésus ?
À sa naissance ou
Alors là, vous me posez une colle, je dirais, sur ces 33 années, donc nous allons dire ça
avant,
comme ça.
Un peu après.
Voilà.
Dans les environs.
Alors,
à la louche.
Moi, je Ponce Pilate.
Vous dites Ponce Pilate.
Alors, Ponce Pilate et Antipas.
Et eh bien, en fait, c'est Olivier qui a la bonne réponse parce que c'est Hérode Antipas.
Et voilà ce qui arrive quand il y a une bonne réponse.
Alors, juste, Hérode Antipas était le gouverneur de la région. Il était le fils d'Hérode le Grand, qui était roi de Judée à l'époque de la naissance de Jésus.
Très bien.
Voilà. Alors, on arrête un petit peu l'histoire, la géo, et on va partir un petit peu plus dans le récit de la chute des murs. Mmh. Et je vous pose la question suivante à tous les deux. Quel personnage de la Bible est associé à la ville de Jéricho dans le récit de la chute des murs ? Il y a trois propositions. D'abord Jean-Claude, oui. Ensuite Olivier,
d'accord.
Chacun son tour. Il y a David, il y a Moïse, il y a Josué. À votre avis, quel est le personnage de la Bible qui est associé à la ville de Jéricho dans le récit de la chute des murs. Est-ce Josué, Moïse ou David ?
Je dirais Josué, mais vraiment dans...
Sans hésitation, c'est Josué et Jean-Claude. C'est bien lui.
D'accord.
Eh bien,
c'est bien lui.
Vous avez tous les deux raison.
Tous les deux raison. Et oui.
Le personnage, effectivement, c'était bien Josué, qui était le chef des Israélites après Moïse.
Oui.
Et selon le livre de Josué dans la Bible, Josué donc dirigea les Israélites lors de la conquête de la terre promise. Et Jéricho fut l'une des premières villes qu'ils prirent après avoir traversé le Jourdain. Et la chute des murs de Jéricho est un récit célèbre où les murs de la ville s'effondrèrent après que les Israélites aient suivi les instructions divines en marchant autour de la ville pendant 7 jours avec les prêtres portant l'Arche de l'Alliance. Alors je vous propose, pour continuer, puisque nous sommes partis sur Josué, quelques petites questions justement sur ce personnage. Alors le Seigneur a dit à Josué, alors je vous lis ces deux petites phrases et je vous pose la question après. « Voici que j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que tous les vaillants hommes. Marchez autour de la ville, vous tous les hommes de guerre. » Que demanda le Seigneur à Josué ? Alors je vais vous faire 3 propositions et je vais demander cette fois-ci à Olivier de répondre en premier et à Jean-Claude en deuxième.
Oui.
Alors, il lui demanda, le Seigneur à Josué, de faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, de prier devant les murs effondrés ou de chanter des louanges.
Première réponse. Hein.
Pour oui. Olivier, oui. De faire le tour de la ville oui. une fois par jour pendant 6 jours.
Oui.
Et vous, Olivier ? Et vous, Jean-Claude ? Pardon.
Je dirais la deuxième.
De prier devant les murs effondrés ?
Oui.
Eh bien, je crois que c'est Olivier qui a raison. C'est oui. Le Seigneur demanda à Josué de faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Et je vous lis quelques petits versets, donc extraits du livre de Josué. Voici que j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que tous ses vaillants hommes. Marchez autour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, une fois par jour, et vous agirez ainsi pendant 6 jours. En fait, il faut que je dise à Jean-Claude
oui.
que quand dans mes petites propositions, il y a des trucs un petit peu bizarres, sachez que quand vous jouez avec moi, c'est forcément la mauvaise réponse. De prier devant des murs effondrés, vous êtes sûr que ce n'est pas ça ? Voilà, maintenant je vous dis ça entre nous, personne ne nous a entendus. Voilà. Alors, maintenant qu'ils ont fait le tour une fois par jour pendant 6 jours, eh bien, j'ai envie de vous poser la question, mais que se passe-t-il au 7e jour ? Est-ce que les prêtres se mettent à prier ? Est-ce que les prêtres marchent vers les murs effondrés ? Ou alors, est-ce que les prêtres sonnent des trompettes ? Jean-Claude. Est-ce que les prêtres sonnent des trompettes ? Ils marchent vers les murs effondrés ? Ou alors, ils se mettent à prier ?
Ils sonnent des trompettes, je ne sais pas.
Mais si, vous savez très très bien, c'est la bonne réponse.
Qu'auriez-vous dit, Olivier ? J'aurais dit le chauffard, parce que ces trompettes, non, c'est le chauffard, c'est une corne d'animal, comme ça fait une sorte de bruit comme ça.
Voilà, voilà. Tous les deux, la bonne réponse.
On va se congratuler.
Est-ce que je vous lis ?
Mais oui, comme ça on apprend encore mieux.
Alors, mais au 7e jour, que les prêtres portent devant l'arche 7 trompettes retentissantes faites dans des cornes de bélier et qu'ils marchent devant l'arche de l'Alliance, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront des trompettes. Le peuple poussa des cris de guerre et sonna des trompettes. Quand le peuple entendit le son des trompettes, le peuple poussa un grand cri de guerre et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Alors pour rire un petit peu aussi dans ce quiz, j'ai découvert qu'il y avait quelques poètes qui avaient été inspirés par ce récit biblique de la bataille de Jéricho. Je vous en ai trouvé 3. Inutile de le dire que je ne savais pas du tout. Donc vous avez le droit de dire n'importe lequel des 3 que je vous dirai. Victor Hugo, Lamartine ou Ronsard. Olivier.
Lamartine, je dirais.
Lamartine,
pourquoi pas.
Et vous, Jean-Claude ?
Moi, Lamartine aussi, je dirais.
Eh bien, tous les deux, vous vous êtes trompés.
Non. Ah bon, ça aurait pu. Hein.
Bon, c'était pour rire, je l'ai dit. C'est vraiment pour rire. C'est Victor Hugo. Victor Hugo était en exil à Jersey, il a composé un magnifique poème en alexandrin qui relate cette semaine de siège militaire. Et donc, ce poème s'appelle « Sonner sonnez toujours, clairon de la pensée. Je vous lis les quatre premiers ou les cinq premiers. Quand Josué, rêveur de la tête aux cieux dressés, suivi des siens, marchait et poète irrité, sonnait de la trompette autour de la cité. Au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Au second tour, riant toujours, il fit dire, etc., etc., etc. Et à la dernière ligne, à la septième fois, les murailles tombèrent.
Oui. De nouveau dans le quiz biblique avec Charlotte et avec Jean-Claude. On est reparti après Jéricho. Où allons-nous ? On a traversé, on arrive en Terre promise alors.
Ah, mais nous restons toujours sur Jéricho tout le long de ce quiz, vous allez voir. Donc, on vient d'évoquer brièvement Josué. Et on poursuit aujourd'hui les récits de la conquête de Jéricho avec l'histoire de Rahab. Et toujours, Josué envoie d'abord deux espions en reconnaissance. Et le texte biblique raconte la rencontre entre Rahab et les espions de Josué. Mais première question, savez-vous qui est Rahab ? Était-ce la femme de Ponce Pilate ? Une prostituée ? Ou la sœur de Josué ?
Jean-Claude, Rahab, qui est-elle ?
Par déduction, on dira la sœur de Josué.
La sœur de Josué. La sœur de Josué.
Et vous, Olivier ? Est-ce la sœur de Josué, une prostituée ou la femme de Ponce Pilate ?
Bien, une prostituée, hein, il faut le dire.
Mais oui, parce qu'Olivier me connaît, il sait que dans les réponses, je mets quelquefois des trucs bizarres. Donc, il sait que ce n'est pas Ponce Pilate.
Non.
Puisque ce n'est pas Ponce Pilate.
C'est anachronique.
Voilà. Enfin, presque. Non, ce n'est pas tout à fait anachronique, mais ce n'est pas loin. C'est donc une prostituée.
Ouais.
Je vous lirai un petit peu plus loin. Donc, un point pour Olivier.
Oui.
Et alors, qu'a fait cette femme, Rahab ? Je vous propose trois propositions. Elle a caché deux espions dans sa maison. Ou alors elle a prévenu le roi de Jéricho que Josué avait envoyé des espions. Elle a prévenu le roi. Ou alors elle a menti au roi de Jéricho pour protéger les espions. Elle les a cachés, les espions. Première proposition. Elle a prévenu le roi de Jéricho que Josué avait envoyé des espions. Elle a un petit peu cafeté, en fait, en gros. Ou alors elle a menti au roi de Jéricho pour les protéger, ces espions.
Elle a menti pour vous.
Et pour Olivier,
moi, elle les a cachés.
Eh bien, en fait, à vous deux, vous avez les deux réponses.
Eh bien, voilà. Il n'y avait pas de piège, vous aviez dit au début. Et en fait,
bon,
il y a des pièges.
Il y a toujours un petit peu de piège, voilà. Mais après, il n'y en a pas beaucoup, des pièges.
Découragé.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Dans le livre de Josué, au chapitre 2, on peut lire « Les ayant cachés, elle dit « Il est vrai que ces hommes sont venus chez moi ». Mais que je n'ai pas su d'où ils étaient. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, car vous les atteindrez. » En fait, elle les avait mis, je crois, sur son toit terrasse. Donc, en fait, elle ment. Alors, du coup, Josué, puisqu'elle a menti, il est furieux après Rahab. Et alors, que fait-il, Josué ? Trois propositions. Il demande aux espions de tuer Rahab, ou alors il lui laisse la vie sauve. Ou alors il la condamne aux travaux forcés. Olivier.
Non, il ne la condamne pas aux travaux forcés. Non, il lui laisse la vie sauve.
Et vous, Jean-Claude ? Il lui laisse la vie sauve, il demande aux espions de tuer Rahab, ou alors il la condamne aux travaux forcés ?
Il la condamne aux travaux forcés ?
Eh bien, non, il lui laisse la vie sauve.
Oui. Il est magnanime quand même, Josué.
Alors, donc, je vous lis dans le livre de Josué. Je sais que Yahvé vous a donné ce pays. Nous avons appris comment Yahvé a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge lorsque vous sortiez du pays d'Égypte. Je vous laisse quelques lignes. Et vous laisserez la vie à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes sœurs et à tous ceux qui leur appartiennent. Donc, en fait, Josué est furieux après Rahab, mais il lui laisse la vie sauve. Et alors, pour cette bataille de Jéricho, là, quelle en est l'issue ? Que font ces enfants d'Israël, finalement ? Quelle est l'issue de cette bataille ? Est-ce que les espions font sortir de la maison de Rabat et sa famille? Est-ce qu'ils cassent, brûlent, tuent? Est-ce qu'ils volent et s'en vont? Finalement, l'issue de la bataille, c'est quoi? C'est les espions font sortir de la maison Rabat et sa famille, ou alors ils cassent, ils brûlent et tuent la ville, ou ils volent et s'en vont. À votre avis?
Que font-ils, Jean-Claude?
La première, c'est
les espions font sortir de la maison Rabat et sa famille.
C'est ça.
Voilà. Oui. C'est ça. Eh bien, en fait, vous avez tous les deux raison, mais.
Et voilà.
Mais, puisque je suis toujours un petit peu. Un petit peu joueuse, moi. Non, ce sont les trois aussi.
Les trois.
Donc, en fait, quoi que vous disiez, vous aviez raison tous les deux.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et je vais vous.
Et pourquoi maintenant?
Dire.
Savoir pourquoi.
Bah oui, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Tout de suite, quand je retrouverai mon petit texte. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Mais elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers envoyés par Josué pour explorer Jéricho. Donc ça, c'est un extrait du livre de Josué au chapitre 6. Alors, nous continuons un petit peu notre parcours, notre voyage. Et j'ai envie maintenant de vous emmener et de partir à la rencontre avec un collecteur d'impôts que vous connaissez bien et qui est bien connu à Jéricho et qui est évoqué chez Saint-Luc, plutôt dans le chapitre 19. Alors, Jésus, il entame sa vie publique en Galilée. Il monte ensuite vers Jérusalem. Et c'est sur le chemin, en direction de Jérusalem, vers la Passion, que Jésus passe par Jéricho et rencontre un homme que nous connaissons tous. Alors ma première question va être, quel nom a été donné à ce collecteur d'impôts qui vivait à Jéricho et qui a été rencontré par Jésus? Est-ce que vous avez besoin de propositions?
Non,
Jean-Claude.
C'est Zachée, non?
Ben oui, c'est Zachée, bien
Bravo.
Sûr. De
Bravo,
petite taille,
c'est
oui.
Zachée. Donc là, on va,
oui.
On va partir sur deux, trois petites questions sur Zachée qui sont très faciles. Ah, peut-être pas celle-là, mais elle est amusante. Alors, à votre avis, que signifie le nom de Zachée en hébreu? Je vous propose trois idées. Est-ce inspecteur? Est-ce innocent? Ou... innocent aux mains pleines?
Non, pas la 3.
Alors, la 3, maintenant, vous avez compris, vous allez l'éliminer. Alors, est-ce inspecteur ou innocent?
Jean-Claude, moi, je dirais la 2. Je dirais
ouais, moi aussi,
innocent, oui, ça paraît bien. C'est bien d'aller à la racine hébraïque, c'est quand même bien.
Alors, vous dites innocent ou inspecteur?
Innocent.
Et vous aussi, Jean-Claude?
Jean-Claude aussi.
Eh bien, vous avez raison.
Mais oui.
C'est innocent. Alors, moi, ma petite remarque, j'ai envie de dire, tout d'abord, le nom de Zachée résonne de manière très ironique dans ce récit, parce que le sens possible de ce nom est assez surprenant hein, pour un collecteur d'impôts. En effet, l'origine de ce nom vient de l'hébreu Zaka, j'espère que je le prononce bien, et signifie innocent. Et bien joué la Bible pour un collecteur d'impôts, hein, innocent.
Oui.
On a presque
Mais
envie
oui.
de dire innocent aux mains pleines.
Mais oui.
Alors du coup, me diriez-vous, Zachée était-il un homme pauvre, riche ou il mendiait?
Riche, pauvre ou il mendiait? Oh, ça Jean-Claude.
Un collecteur d'impôts.
Alors
il n'était pas pauvre, hein. Il se sucrait au passage, hein, comme on
donc
dit.
Donc vous dites riche.
Eh oui.
Écoutez, bravo.
Eh oui.
Bravo. Alors nous continuons. Pourquoi Zachée est incapable de voir Jésus, à votre avis?
Parce qu'il est petit.
Il est petit.
Je n'ai même pas besoin de donner des... Bravo,
voilà,
Jean-Claude, bravo
oui.
Olivier.
Oui, mais dès qu'on arrive dans le Nouveau Testament, généralement c'est plus facile, à la force des quiz bibliques, je m'aperçois que c'est l'Ancien Testament hein, qui a souvent des carences hein, chez
oui.
les fidèles.
Oui. Oui, mais en fait ce qui est amusant, c'est que ce quiz est un jeu, donc on peut
oui.
aussi avoir des questions faciles et des questions
oui.
plus compliquées.
Mais on n'apprend pas si c'est toujours facile, hein, de toute façon.
Bon, bien alors dans ces cas-là, je vais compliquer tout ça. Donc alors on disait que...
Ce que je voulais dire, en fait, c'était Quand j'ai fait mon caté, c'était un des dessins que j'avais fait.
D'accord.
Ben oui, mais c'est ce que nous avons tous fait. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que Jésus y rencontre un homme que nous connaissons bien tous depuis oui. notre tendre oui. enfance. Alors donc, on sait que Zachée était de petite taille, qu'il monta sur un arbre pour voir Jésus. Mais cet arbre, c'était quoi ? C'était un baobab ?
Mais non, il l'a dit déjà, Jean-Claude. Il l'a dit.
Vous l'avez dit.
Il a même dit l'arbre, il a dit sycomore.
Alors vous voyez, c'est trop facile.
Par contre, il n'a pas dit ce que ça voulait dire, la racine hébraïque de sycomore.
Ah non,
pas
alors
dit.
Là, non. Ça, je ne vous dirai pas ce que c'est. Ça doit être une. Non, ça je n'ai pas. Je n'ai pas trouvé. Donc en fait, en résumé, Zachée, il est incapable de voir Jésus à cause de sa petite taille. Il est donc présenté comme un homme de pouvoir, avec des titres ronflants, riches. Alors pourquoi dit-on que Zachée était véreux ? Alors si c'est trop facile, moi je ne vous donne plus de réponse, je vous laisse me répondre.
Essayons.
À votre avis, pourquoi dit-on que Zachée était-il véreux ? Moi, quand j'ai fait le quiz, j'ai eu besoin des trois réponses.
Hein. Trois réponses, d'accord, ouais. Peut-être. Ouais.
Pourquoi ? Est-ce que vous voulez que je vous les donne ?
Je vais faire une proposition.
Oui.
Allez-y.
Peut-être qu'il prenait plus que ce qu'il devrait faire par rapport à... En tant que collecteur d'impôts, il prenait un peu plus que...
Oui, oui.
Vous êtes peut-être sur la bonne voie,
oui,
Olivier.
Bah oui, j'aurais pas dit autrement. Hein. Voilà, oui. Au passage, il s'en mettait plein les poches.
Voilà, il prélevait plus que ce que demandait le pouvoir romain et gardait le surplus pour lui-même.
Voilà, ça, il était bien.
Et bah, c'est du propre. Hein.
Mais non.
Voilà. Alors... On sait que Jésus fait descendre Zachée. Alors, que nous dit l'Évangile ? Que Zachée se sauve, que Zachée a très peur de Jésus ou que Zachée le reçoit avec joie ?
La troisième.
Mais oui.
Oui, bravo.
Mais oui. Bien sûr. Bien sûr.
Et alors, la dernière petite question sur Zachée, parce que ça devient trop facile, tout ça. En voyant Jésus, quelle est la réaction de Zachée ? Deux propositions. Zachée ne veut pas écouter Jésus, ou alors Zachée confesse son péché et propose une réparation.
C'est la deux.
Mais oui, c'est la deux.
Alors, mais Zachée debout dit au Seigneur, « Voici Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, eh bien, combien doit-il lui rendre ? Voilà une bonne question.
En effet, Jean-Claude, alors là, c'est combien la réparation à hauteur de combien ?
Voilà, à votre avis ?
C'est comme le pardon, je dirais cette fois.
Sept fois, il rembourserait sept fois.
Sept fois, moi je...
Ouais, c'est beaucoup là.
Sept fois, c'est peut-être un petit peu beaucoup.
Je dirais quatre, ça suffit, quatre.
Quatre pour Olivier. Ouais, quatre. Jean-Claude, vous changez peut-être ? Oui, dites quatre. Oui, allez, Jean-Claude, dites 4.
Non, il a dit 7, Jean-Claude.
4. Bravo pour tous les deux.
C'est pour Olivier les applaudissements. Il a 4 en effet. Oui.
Alors, en réponse à cette conversion inattendue, ça c'est là, je continue à lire, puisque c'est trop facile, je vais peut-être vous en poser une autre. Jésus résume cette œuvre de salut dans le cœur de Zachée par ces mots. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour... La suite.
Ah, la suite. À compléter. Trois petits points, Jean-Claude.
Pour cette maison.
Mais oui.
Bravo.
Mais voilà. Eh ben là, on joue sur du velours, hein, là, Jean-Claude. Hein. Ah oui, là.
Ouais. C'était. Mais je vous avais dit que ce serait facile et j'avais invité tout le monde à jouer avec moi parce que quand c'est facile, c'est sympa.
Là, on se glorifie, là, on a l'impression.
Alors là, on est passé de Josué, toujours à Jéricho, à Zachée.
Jéricho.
Toujours à Jéricho. Oui. Et on va le laisser, ce collecteur d'impôts, mais on va toujours rester à Jéricho. Et je vous demande, quel miracle Jésus a-t-il accompli à Jéricho ? Est-ce qu'il a multiplié les pains ? Est-ce qu'il a ressuscité un mort ? Ou bien il a guéri un aveugle ?
Jean-Claude, alors, qu'est-ce que c'est ?
Il a guéri un aveugle ?
Oui, je dirais pareil. Hein.
Eh bien oui.
Eh bien oui.
Voilà, il a guéri un aveugle.
Oui.
Alors, je ne vous dis pas le nom de l'aveugle, puisque ça va être mes questions suivantes. Alors, au temps de Jésus, c'est une question en vrai ou faux. La plupart des aveugles étaient pris en charge par leur famille. Était-ce vrai ou était-ce faux ?
Les aveugles pris en charge par leur famille. Hein.
Est-ce que les aveugles étaient pris en charge par leur famille au temps de Jésus ?
Pris en charge, ils s'en occupaient.
Vrai ou faux ?
Oui.
Vous avez une chance sur deux.
Certainement, oui, il devait s'en occuper quand même. Ce n'était pas de la lèpre. Hein,
ah, donc pour Olivier, c'est oui. Et vous,
oui.
Jean-Claude?
Oui, c'est les lépreux qui étaient mis quand même au banc.
Bah, je vais dire non, comme ça, non. Ça fera.
Bah, comme ça fera.
Voilà, ouais, et bien c'est Jean-Claude qui a raison.
Ah
en
bon,
fait.
Pourquoi? Mince. Ah, ouais.
Ils étaient laissés pour compte. Alors.
Exactement.
Même
exactement.
La famille, alors.
Ils étaient. Eh voilà. Oui. Et là, dans Marc, on peut lire « Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. » Alors, bah justement,
les fils comment... de Timée, c'est Bartimée, hein, c'est ça. Bar, c'est fils de... Ah mais c'est la prochaine question.
Comment s'appelle cet aveugle qui a été guéri par sa cécité, par Jésus, près de Jéricho? Oui, alors, hein. Du coup, bah, vous le savez.
Du coup, on le sait. Hein. On le sait.
Non, moi, je ne sais pas.
C'est vrai. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Olivier. Alors, je ne la pose que à Jean-Claude, cette question. Oui. Comment s'appelle cet aveugle? Il s'appelle Lazare, Zachée ou Bartimée?
Le troisième, là, vous avez dit.
Bartimée. Oui, bah, oui, puisque Zachée, c'est le collecteur. Oui. Lazare, c'est le ressuscité. Il ne reste plus que Bartimée.
Bar, ça veut dire fils de Timée, quoi. Fils de... Oh, mais c'est la prochaine question.
Alors, effectivement, Bartimée, ça signifie fils de Timée en araméen. Et cet épisode existe dans les trois évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc. Mais par contre, le nom de Bartimée n'apparaît que chez Marc. Alors, je vous lis une petite partie. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Alors, la foule nombreuse encourage-t-il à crier encore plus fort? Parce qu'en fait, quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, Bartimée, il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Alors, ma question suivante, c'est « La foule nombreuse l'encourage-t-il à crier encore plus fort ?»
Est-ce que la foule l'encourage ou peut-être le réfrène, non?
Alors, je vais vous donner mes trois propositions. En fait, c'est la foule le rabrouait, oui. La foule le souleva et l'emmena vers Jésus, ou la foule le cacha. À votre avis, Jean-Claude?
La foule l'emmena vers Jésus.
L'emmena vers Jésus.
Et vous, Olivier?
La foule...
Oui.
La foule... Pour moi, le rabrouère, hein, c'est ça, lui dire « tais-toi », quoi.
Voilà, la foule le rabrouait, et c'est vrai, la foule lui a dit « tais-toi », en fait. Ah oui, alors donc, pour que suivre juste dans l'évangile, beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Eh bien, pour répondre sur ce fils de David, j'ai envie de vous demander, Bartimée, pourquoi Bartimée appelle-t-il Jésus fils de David ?
Pourquoi appelle-t-il Jésus fils de David ?
Je vous donne trois petites propositions, si vous voulez. Parce que David était son cousin, ou alors parce qu'à cette époque, tout le monde se faisait appeler fils de David, ou bien parce qu'en l'appelant fils de David, il affirme qu'il est le Messie.
Oui, Jean-Claude, alors, qu'est-ce que ça peut être ?
La première proposition, c'est David était son cousin. Est-ce que ça vous tente ?
La question, c'est quoi exactement?
Pourquoi Bartimée appelle-t-il Jésus fils de David? Je vous propose, parce qu'il est le Messie, parce qu'il affirme ainsi en l'appelant fils de David qu'il est le Messie, parce que tout le monde à cette époque se faisait appeler fils de David, ou bien parce que David était son cousin.
Et l'autre, c'est parce que... En fait,
il y en a trois, là.
Il y en a trois. Et oui, parce qu'en fait... Ben oui,
eh bien, si vous ne me répondez
fils de
pas...
David, mais parce que c'est fils de David, c'est le titre messianique.
Et voilà.
Et parce
donc
qu'il est
c'est
Messie.
Là. Donc, c'est bien cette parce qu'il affirme comme qu'il ainsi Messie. Qu'il est le Messie.
Seigneur Jésus.
Donc là, comme je ne sais pas qui a répondu bon, ben je ne mets pas de petit bâton pour aucun
pas
des
de
deux.
De petit bâton.
Vous avez répondu tous les deux?
Tous les deux.
Et Jean-Claude, vous avez répondu quoi?
Non, j'avoue que je n'ai pas répondu.
Ah,
pas répondu.
C'est bien ce qu'il me semblait.
Non, voilà. Voilà.
J'ai hésité, mais en fait, je n'ai pas répondu.
Eh bien, vous avez bien fait. Alors, Bartimée, lorsqu'il est appelé vers Jésus, il se débarrasse de son manteau. À votre avis, que cela signifie-t-il?
Se débarrasser de son manteau, d'accord.
Eh bien, je vais poser la question à Jean-Claude.
Oui.
Ça, s'il a compris que je disais de temps en temps des bêtises, il devrait me répondre juste. Son manteau sentait-il mauvais? Son manteau était-il trop lourd? Ou cela symbolise-t-il l'abandon de ses biens?
C'est la crois que ça symbolise.
Bravo.
Oui, c'est vrai. Même si certainement il devait sentir mauvais, c'est indéniable.
Nous continuons. Le peuple voyant la guérison de l'aveugle, opérée par Jésus, ce peuple fut-il pris d'une grande fureur, ou alors se mit-il à louer Dieu, ou alors il se prosterna.
Alors, fureur, ou louange, ou prosternation,
oui.
C'est trois.
Oui.
Jean-Claude ?
Louange, je dirais.
Louange, moi aussi.
Eh bien,
louange.
Vous avez tous les deux, raison.
Raison, et ce serait bien de...
Alors, je vais vous lire. Oui. Et Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, en voyant cela, adressa une louange à Dieu.
Charlotte, nous avançons hein, tranquillement, tout bonnement vers le terme du quiz biblique.
C'est fini déjà ?
J'ai 30 à ma pendule.
Et c'était fini à 30 ?
Certainement.
Ah, mais j'avais encore quelques petites questions amusantes à vous poser. Hein. Eh bien, ça sera pour la prochaine fois ?
Ce sera pour la prochaine fois, on garde pour la prochaine fois.
Ah, alors je vais faire le score.
On mettait au frigo, puis on garde.
Bah oui, je vais les garder. C'est dommage parce qu'à Jéricho, il y avait encore le bon samaritain.
Il y avait le bon samaritain.
Ah, oui.
Et ah, oui, ben. C'est pour ça quand je vous ai dit, je vous invite à faire un grand voyage. Nous faisons un grand voyage à Jéricho, mais un grand voyage dans le temps aussi.
Il était trop grand, il y aura voilà. Jéricho saison 2.
Eh bien, je le garde pour la prochaine fois parce que je me suis beaucoup amusée aussi à faire.
Merci.
Moi aussi.
Mais maintenant, alors, on s'impatiente de savoir quand même quel est le victorieux de ce quiz biblique.
Alors, vous savez, moi, je suis très, très joueuse.
Oui.
Et je compte très, très mal.
Ah, d'accord.
Alors, 2, 4, 8, 2, 4, 8, vous êtes ex aequo, c'est comme l'école
comme
des fans.
Comme on est très gentils, comme on est quand même, nous. On est très gentils à Radio Maria quand même. Jean-Claude, restez bien en ligne, restez bien en ligne. Moi, je vais prendre votre numéro, votre adresse, et puis on vous offrira bien des bonnes choses qui viennent de Radio Maria, d'accord ?
D'accord, bah, je suis un donateur aussi. Donc,
voilà,
de,
tiens.
Vous avoir en direct, et
mais
très
oui.
Surpris de vous avoir tout de suite. Là,
Oui.
Quand j'ai entendu votre appel en disant il n'y a personne, je dis bah, je vais appeler.
Mais ah, oui. Bah, c'est alors... gentil, parce que sinon, c'est un grand moment de solitude
oui,
pour nous.
On était tous les deux. On était tous les deux en studio, là. Et là, oui.
Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous retrouverai en juin. Et j'ai décidé de faire aussi un petit quiz facile et amusant. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre le troisième mercredi du mois de juin pour moi. Et puis le troisième mercredi du mois de mai pour Ève, je crois.
Pour Ève qui revient alors. Oui.
Mais avec
Charlotte,
moi, ça sera en juin.
Bénédicte.
Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis... j'espère vous entendre une nouvelle fois sur ce quiz, Jean-Claude, et je vous remercie beaucoup d'avoir participé.
Merci à vous.
Merci.
Merci Charlotte. Chers auditeurs, c'était le quiz biblique. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur votre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.